êtes-vous déjà posé la question suivante? Qu'est-ce qui empêche la paix sur la Terre? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui en étonnera plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions à l'émission d'aujourd'hui. Je crois qu'elles vont nous donner un avant-goût du bon enseignement qu'on va recevoir. Alors, les voici. Que produisent les hommes quand ils n'ont pas la crainte de Dieu? Est-ce que Dieu restreint le mal sur la terre? Qu'est-ce qui empêche la paix sur la terre? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire confiance aux nations pour ce qui est de respecter les traités? Que dit la Bible au sujet de ceux qui se confient dans l'homme? Qu'est-ce que les symboles religieux peuvent nous apporter? Qu'est-ce qui est plus important que les rituels religieux? Devons-nous nous afficher en tant que chrétiens, au travail, dans la société? Qu'est-ce que la grâce de Dieu produit dans un cœur? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oh, comme c'est bon, Seigneur, d'ouvrir ce livre en sachant que la vérité est dedans, qu'on peut y trouver le chemin, la vérité et la vie. Enseigne-nous aujourd'hui, parle à nos cœurs, dispose-nous à bien comprendre ce précieux enseignement que tu vas nous donner par la bouche de ton serviteur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu fait prospérer ceux qui le cherchent. Il accorda à Ozias de nombreuses victoires. Cependant, Ozias avait un point faible. Il s'est laissé aller à l'orgueil et il a voulu faire brûler des parfums à l'autel dans le lieu saint du temple. Dieu lui donna la lèpre. Son fils Jotham gouverna alors qu'il passa le reste de sa vie en quarantaine. Jotham fut aussi un bon roi, mais il fut marqué par ce qui arriva à son père et il n'alla jamais au temple. Sous son règne, le peuple se corrompit davantage. Jotham rata une belle occasion de ramener le peuple à Dieu. Il ne faut pas laisser nos préjugés nous empêcher de servir le Seigneur. Ensuite, Achaz succéda à son père sur le trône du pays. Cependant, il entraîna le royaume dans l'idolâtrie. Nous nous sommes demandé si trop de pères ne négligent pas leurs enfants à cause de leur travail et de leur carrière. La main de Dieu ne se fit pas attendre pour peser sur Achaz. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 5. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers, qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Sans crainte de Dieu, les hommes produisent des atrocités. Nous sommes devant un événement triste. Dieu permet à une autre nation d'envahir Juda. La Syrie attaque Juda et ce pays s'est allié avec Israël. Une brèche est faite dans la muraille de la ville et des milliers de personnes sont capturées. Israël ramène de nombreux captifs de Juda, ce qui est extrêmement triste. Une partie du peuple de Dieu amène l'autre en captivité, tout cela parce qu'ils ont abandonné Dieu. Nous avons ce genre d'avertissement dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà les conséquences de vivre sans la crainte de Dieu. Revenons à notre texte. Deux Chroniques, chapitre 28, verset 6. Pekach, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Dieu donne clairement la raison pour laquelle Juda en est rendu là, versets 7 et 8. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja, fils du roi, Azricam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Conséquence du rejet de Dieu. Mais dans sa providence, Dieu restreint le mal. Juda se retrouve donc dans une situation extrêmement malheureuse. Dieu l'a permis, car Akas et le peuple ont choisi la voie de l'idolâtrie. Mais Juda est le peuple de Dieu, et il envoie un prophète en Israël pour leur parler de la manière dont Israël traite leurs frères de Juda. Versets 9 et 10. Il y avait là un prophète de l'Éternel, nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie, et il leur dit, « C'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem, vos serviteurs et vos servantes? Mais vous, n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel, votre Dieu ?» Dieu avait expressément interdit à son peuple de faire des esclaves de ses frères. C'est ce que vous pourrez lire dans le livre du Lévitique, chapitre 25, versets 39 et 40. Poursuivons notre lecture de Deux Chroniques, chapitre 28, versets 11 et 12. Écoutez-moi donc, et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jochanan, Berechia, fils de Meshilemoth, Ézéchias, fils de Shalom, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée. Des chefs du royaume du Nord s'objectèrent à ce que leurs frères soient réduits à l'esclavage. Versets 13 à 15. Et leur dirent, « Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car, pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. » Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes, dont les noms viennent d'être mentionnés, se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les soignirent. Ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués. Et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. Ils eurent gain de cause, et les captifs furent libérés et retournés dans leur pays. Le royaume du Sud se trouvait dans une situation lamentable. Si ce n'eût été l'intervention de Dieu, la nation aurait été presque éliminée. Cependant, elle fut affaiblie et elle devint une proie facile pour d'autres envahisseurs. Versets 16 à 18. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, battirent Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Il n'y a pas de paix sur terre à cause du péché dans le cœur de l'homme. En retirant sa protection, Dieu permit à tous les ennemis d'attaquer Juda. Tout cela est la conséquence du péché de la nation. Les guerres sont le résultat direct du péché. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Citation de Jacques, chapitre 4, versets 1 et 2. Oui, chers amis, tant qu'il y aura du péché dans le cœur de l'homme, il n'y aura pas de paix sur terre. Il ne peut y avoir aucune sorte de paix avec Dieu, avec soi et avec les autres. Il faut premièrement régler la question du péché avant d'obtenir la paix. L'expérience de Judas illustre ce point. Parce que le peuple a péché, il n'y a plus de paix. Achaz commet une deuxième erreur monumentale. Plutôt que de se tourner vers Dieu, il demande l'aide de l'Assyrie. Versets 20 et 21. Tilgath, Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Achaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Il ne faut pas se confier en l'homme. Achaz fit confiance au roi d'Assyrie. Il lui envoya un don généreux, prit tout cela dans le temple, dans son palais, ainsi que dans les maisons de ses chefs. Le roi d'Assyrie accepta le présent, mais il ne secourut point Achaz. Il n'avait pas besoin de le faire. Il était à la tête d'un pays puissant, et Achaz était devenu qu'un pauvre roi minable. Achaz s'est détourné de Dieu pour aller vers l'Assyrie, mais ce pays le laissa tomber. L'Assyrie ne respecta pas son traité. Nous ne pouvons pas faire confiance aux nations pour respecter des traités. Pourquoi? Simplement que tant que les hommes seront pécheurs, ils seront menteurs. Donc, indignes de confiance. La Bible dit de ne pas se confier dans l'homme. Nous devons plutôt nous appuyer sur Dieu et ses promesses. Lui est fidèle. Verset 27. Achaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Ézéchias, son fils, régna à sa place. C'est ainsi, chers amis, que se termine le triste règne du triste roi Achaz. Maintenant, nous passons au règne de son fils Ézéchias. Ce fut une période de réveil spirituel pour la nation de Juda. Nous aurions cru qu'il n'y avait plus d'espoir pour cette nation après le règne d'Achaz. Les richesses du pays étant épuisées, le pays avait subi plusieurs défaites militaires. Il avait été trahi par l'Assyrie, et nous aurions pensé qu'il était impossible pour eux d'obtenir du secours. Cependant, Ézéchias monta sur le trône à ce moment-là, car il était l'homme de Dieu pour cette situation. Débutons notre lecture, 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1er. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il semble qu'Ézéchias eut un grand-père et une mère qui craignaient Dieu. Ils eurent une bonne influence sur ce jeune prince. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Le deuxième livre des rois contient un récit plus concis du réveil qui eut lieu pendant le règne d'Ézéchias. En voici une lecture. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fut plus assujetti. Deux Rois, chapitre 18, versets 4 à 7. Les symboles religieux n'apportent aucun mérite. Dans le livre des Chroniques, nous voyons les gestes positifs qu'Ézéchias fit pour restaurer l'adoration de Dieu au temple. Par contre, le livre des Rois nous raconte les gestes négatifs qu'a dû poser Ézéchias. Il détruisit les hauts lieux et il fit disparaître le serpent d'airain fabriqué par Moïse, précise le texte, car le peuple en avait fait une idole. Au moment de sa fabrication, les Hébreux regardaient vers ce serpent avec foi afin que Dieu les guérisse des morsures de serpent. Dieu avait demandé à Moïse d'élever le serpent sur une pôle. Maintenant, il était devenu une idole que l'on adorait, une occasion de chute pour le peuple. Certains vénèrent le symbole de la croix. Ils semblent croire que posséder une croix ou en porter une autour du cou leur accorde certains mérites. Mes amis, il n'y a aucun mérite à tirer d'un symbole religieux. Vous pouvez faire une idole d'un robinet parce qu'il vous apporte de l'eau, ou d'une fenêtre qui vous éclaire, ou d'une automobile qui vous transporte. De nombreuses personnes adorent leur voiture, leur télévision et même leur ordinateur. Chaque jour, ils consacrent des heures à ces objets. Il n'y a aucun mérite dans les symboles religieux et dans les objets. Toute gloire doit revenir au Dieu vivant. Ce livre est écrit d'un point de vue divin, rappelez-vous. Dans Chronique, nous voyons les éléments positifs des réformes d'Ézéchias. Revenons à notre texte, verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Achaz avait fermé le temple et plus personne ne l'utilisait. La première chose que fit Ézéchias fut d'ouvrir le temple et de le réparer. Ézéchias ordonne que le temple soit rénové et restauré. Versets 4 et 5. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Les cœurs consacrés sont plus importants que les rituels religieux. » Ézéchias ordonna, « Maintenant, sanctifiez-vous. » Avant de pratiquer des rituels religieux et d'offrir des sacrifices à Dieu, il fallait revenir à une vie consacrée à Dieu, à une vie honnête et intègre devant Dieu. Les sacrificateurs devaient se consacrer à Dieu, s'engager à le servir. C'était nécessaire à cette époque et c'est toujours nécessaire aujourd'hui. Nous avons trop de christianisme homogénéisé, qui est un mélange de bien et de mal. Chers amis, retirons-nous du mal et consacrons-nous à faire le bien devant Dieu. Versets 6 et 7. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Ézéchias sait que c'est le peuple qui est à blâmer pour le désastre que le royaume a vécu. C'est à cause du péché de tout le peuple. Chacun avait une part de responsabilité. Versets 8 à 10. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant le roi restaure les sacrifices au temple. Premièrement le cœur, ensuite le service. Versets 20 et 21. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Et nous, chers amis, nous affichons-nous pour Dieu? Ézéchias donne un bon exemple en prenant position publiquement pour son Dieu. Nous avons besoin de faire cela aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne devraient pas hésiter à prendre une position publiquement. Nous devons nous afficher comme chrétiens, au travail et en société. Écoutez ce texte tiré de l'Évangile selon Matthieu, des paroles citées par le Seigneur Jésus lui-même, Matthieu chapitre 10, versets 31, 32 et 33. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Revenons à notre texte de 2 Chroniques, chapitre 29, verset 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Remarquez que c'est Dieu qui a disposé le peuple. Seul Dieu peut accorder un réveil. Seul Dieu peut guérir une âme. Ce n'est jamais le résultat d'efforts humains, chers amis. Implorons Dieu en toutes circonstances, et il agira. Chapitre 30, versets 1 et 2. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque soit célébrée au second mois. La grâce de Dieu nous enseigne à marcher dans ses voies. Notez ce que fait la grâce de Dieu dans un cœur. Le royaume d'Israël avait emmené captif de nombreuses personnes de Juda et avait tué au-delà de 100 000 hommes avec l'aide de la Syrie. Plutôt que de se venger, Ézéchias invite le peuple du royaume du Nord à se joindre à eux pour célébrer la Pâque. Voilà la manifestation de la grâce de Dieu, du ministère de la réconciliation que Dieu a confié aux siens. Versets 15 et 16 de 2 Chroniques chapitre 30. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Un Dieu d'ordre, un Dieu qui rétablit son ordre. Et par le fait même, les hommes vivent en paix. Voilà ce qu'il nous faut, chers amis. Un Dieu qui vient mettre de l'ordre dans notre vie, afin de pouvoir bénéficier de sa paix, et que cette paix soit répandue à travers nos relations les uns envers les autres. Mais premièrement, demandez à Dieu qu'il vienne faire son œuvre, qu'il vienne accomplir parfaitement son œuvre dans notre vie, d'y mettre l'ordre qui est nécessaire afin que nous retrouvions la paix envers notre Dieu, envers soi-même et envers notre prochain. Voilà ce que Dieu t'offre aujourd'hui. À toi de décider. Chers amis, prochaine émission, 2 Chroniques, chapitre 30, verset 17, à chapitre 32, verset 33.
Merci, Régent. Je trouve ça tellement beau ce qu'Ézéchias a fait. Régent a mentionné qu'au lieu de se venger, il a invité le peuple du royaume du Nord à se joindre à eux pour célébrer la Pâque. Oh, mes amis, si on pouvait toujours faire ça! C'est d'ailleurs ce que la Bible nous enseigne de faire. Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Et au verset 17, il ajoute, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et Jésus lui-même nous dit dans l'Évangile de Matthieu, au 5e chapitre, au verset 43 et 44, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du mal à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. » Pense que Dieu nous met à l'épreuve quand il permet à des gens de nous persécuter parce qu'on est chrétien. Pour ma part, quand une personne est froide avec moi ou quand une autre me traite avec mépris parce que je suis chrétienne, je me dis que même cette personne est peut-être en train de me mettre à l'épreuve pour voir si je suis réellement une chrétienne. Une personne qui a Jésus pour sauveur et qui marche comme lui-même a marché quand il est venu sur la terre. Je pense aussi que lorsqu'une personne est méchante, il y a de fortes probabilités qu'elle soit très malheureuse, très souffrante, et que son comportement peut être un cri de détresse pour que quelqu'un vienne à son secours. Mes frères, mes sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu place des personnes sur notre chemin, des personnes qui n'ont pas le privilège d'être certaines qu'un jour elles iront au ciel pour être avec Dieu éternellement. Mais nous, nous avons ce privilège, et c'est une grâce de Dieu. C'est un don qu'on ne méritait pas, mais Dieu nous a aimés. Je me souviens pour ma part d'avoir été très méchante envers la première personne qui m'a parlé de Jésus. Mais cette personne n'a pas cherché à se venger. Il a simplement prié pour moi, en attendant que Dieu place une autre personne sur mon chemin, à un moment où j'étais plus disposée à recevoir la bonne nouvelle de la grâce. Aimons nos ennemis. Ils sont peut-être de futurs frères et sœurs en Jésus-Christ, des gens qui travailleront avec nous pour la cause de l'Évangile. Et toi, mon ami, as-tu reçu la grâce de Dieu? As-tu reçu le don gratuit de la vie éternelle? Jésus te l'offre aujourd'hui, en ce moment. Où es-tu en ce moment? Es-tu derrière ta porte, pensant qu'il n'y a pas de justice sur la terre, qu'il n'y a pas d'amour, pensant que tu n'as plus de raison de vivre? Eh bien, je t'invite à ouvrir tes oreilles et ton cœur. C'est ton heure, c'est ton moment. À l'instant même, Jésus, celui qui est mort sur la croix pour toi, est en train de s'inviter chez toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer. Le moyen de le faire, c'est de reconnaître que tu es un pécheur qui ne peut pas se sauver lui-même. Ensuite, repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il a payé ta dette en entier quand il est mort sur la croix et maintenant il t'offre le don gratuit de la vie éternelle. Oh mon ami, prends-le.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.